Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter à Marseille, par exemple, sur 95.1, depuis la boutique Nicolas, par exemple, au 159 rue de Rome. Vous savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% dédiée à l'actualité des vins et aux spiritueux. On peut se retrouver sur Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Voilà, c'est dit, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Jean-Philippe Janssen, humoriste français, mais également grand amateur de vin. On parlera également de l'appellation Luberon ou Luberon, on verra quelle est la bonne prononciation. Et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et Siver Macaron, fascination de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner, il faudra jouer sur invinoradio.tv. À mes côtés aujourd'hui, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, Laurence Perrault, notre consoeur de Sud Radio, animatrice sur M6, ainsi que Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les trois, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Séverine Schlumberger. Bonjour Séverine.
Bonjour à tous.
Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Tout débute en 1810 avec Nicolas Schlumberger.
Absolument, notre ancêtre Nicolas qui achète une vingtaine d'hectares de vignes à Guebwiller, donc vraiment entre Mulhouse et Colmar, avec 8 distances. Et puis l'histoire se poursuit gentiment, et c'est surtout dans les années de 1920 que le domaine prend un essor important. Notre arrière-grand-père Ernest, alors on sort de 1920, on sort de 50 ans d'annexion allemande, pas le droit de mettre du vin en bouteille, on sort du phylloxérin et de la Première Guerre mondiale. Donc autant dire que voilà, le côté cataclysmique est bien là, et bah, toutes les femmes propriétaires de vignobles doivent aller travailler à l'usine pour nourrir leurs enfants, et se tournent vers mon arrière-grand-père en lui demandant: Monsieur Schlumberger, est-ce que vous pouvez racheter notre parcelle? Et il regarde ça en se disant: si je ne fais rien, tout disparaît. Et il rachète 2500 parcelles et amène le vignoble à 140 hectares.
2500, donc il y a des toutes petites parcelles parfois.
C'était pratiquement une négociation par parcelle et avec une famille différente. Et puis il replante la vigne, Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai envie de dire que l'histoire de l'Alsace, elle a manqué pratiquement un siècle. Oui. Elle redémarre dans les années 50-60. Malheureusement pour la région, elle redémarre sur des vins beaucoup très sulfités, qui donnent mal à la tête, le petit ballon qu'on boit avant d'aller à l'usine à Paris.
Oui, alors ça c'était avant, il faut le dire et il faut le répéter. Hein,
oui, malheureusement, elle a redémarré son histoire sur une mauvaise réputation. Et ça a l'air anodin, mais on a mis 50-60 ans
à changer le cliché.
Ah, ouais, exactement, changer les clichés.
Philippe, alors... vous avez encore ce genre de questions ou pas, en disant « Oh là là, pas l'Alsace, ça, j'ai mal à la tête ».
Alors, moins, beaucoup moins qu'avant.
Et tant mieux.
Et tant mieux, bien entendu. Ce qui perdure aussi, quand même, pour l'Alsace, c'est le côté incertain de la sucrosité. Ça, ça reste.
Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous concernant la sucrosité.
Merci de
j'ai
nous
une excellente
apporter.
Nouvelle pour vous. À partir du millésime 2021, les vins auront automatiquement une barre de sucrosité pour indiquer si le vin est sec, moelleux, demi-sec, etc.
Enfin, alléluia.
Voilà, merci. 20 ans, 25 ans qu'on y travaille.
C'est une bonne nouvelle.
C'est passé.
Et dans la communication,
alors,
vous dites on arrête la barre au front, mais la barre dans la bouteille, c'est ça, non?
Voilà, et ils ont poussé un tout petit peu. Alors, nous, ça fait déjà 20 ans qu'on l'utilise au domaine Schlumberger. Et ils ont poussé un cran au-dessus, puisque les Riesling, pour être étiquetés Riesling, devront avoir maximum 4 grammes de sucre.
D'accord.
Donc vous serez sûr, en achetant un Riesling alsacien, d'avoir
important.
Un vin sec. Je pense que c'est une excellente nouvelle.
Très
Je
bonne nouvelle.
Je comprends bien que ça limite des Riesling un peu plus riches, mais on a un énorme besoin de clarification au niveau des consommateurs.
C'est clair. Hélène, vous aimez les vins d'Alsace?
J'adore ça, mais le nombre de fois où effectivement j'ai piqué un gros coup de colère parce que la bouteille que j'avais mis au frais en
ça,
disant
problème,
bon,
ouais,
ça ira super avec mon plat, midi, je l'ouvre. C'était super sucré. Franchement, ça
Il faut
très
savoir
bien.
Que la
c'est
moitié très, de la production, la moitié de la gamme de ce qu'on offre en Alsace sont des vins secs, et ce que j'appelle des vins passe-partout, c'est-à-dire vous pouvez vraiment les mettre à table à toutes les sauces.
Oui.
Donc il faut
dans
vraiment
le bon sens du terme quand même.
Voilà. Quand on s'est fait avoir comme Hélène, quand on s'est trompé, c'est pas agréable.
Maintenant
c'est fini.
Arrive.
C'est fini.
Voilà.
Mais cette barrette, pardon, cette barrette des saveurs, elle existait.
Alors, elle était, le vigneron pouvait l'utiliser, mais elle ne reposait sur aucune législation. Maintenant, elle va être obligatoire.
Ouais, justement, il me semblait que l'Europe avait retoqué ça en disant, il faut revoir votre copie. Donc, à partir de 2021, ça, c'est la bonne nouvelle.
Nous, on utilise ça depuis 20 ans et c'est la meilleure chose qu'on ait faite depuis 20 ans.
Bravo l'Europe. Hélène.
Alors effectivement, vous disiez, les vins d'Alsace vont avec tout. Et grâce à cette nouvelle étiquette, on va effectivement savoir avec quoi les marier plus facilement avant même d'avoir ouvert la bouteille. J'ai lu que vous aviez coutume de dire qu'il faut avoir du vin d'Alsace dans son frigo comme de la bière ou du champagne pour les cas où.
Alors, j'appelle ça les juste au cas où. Voilà, moi, j'ai un certain nombre de vins que j'ai juste au cas où dans mon frigo, ouais, qui sont les pinots blancs et les pinots gris AOC alsaciens, qui sont vraiment les vins absolument passe-partout. En fait, vous me dites dans quel pays vous êtes, ce que vous mangez ce soir, je vous trouve un vin d'Alsace qui va avec.
Donc, que je vous dise, raclette ou pas de taille,
bon, allez, je suis prête.
D'ailleurs, je vous dis les deux, tiens, une raclette, un pas de taille avec
Une raclette, on va aller sur un Riesling, forcément, peut-être un Sylvaner pour vraiment les amoureux du sec, très minéral. Et puis, un pas de taille, on va aller sur un Pinot Gris AOC, on peut aller sur du Grand Cru et éventuellement des Gewürz pour ceux qui aiment un peu plus de sucre. Mais en fait, c'est vraiment une région pour moi qui est absolument incontournable. On a du Pinot Blanc sec et facile à boire jusqu'à la plus opulente des vendanges tardives. Nous sommes une des seules régions au monde à offrir une telle diversité de vins blancs, il faut le rappeler. On a souvent été un peu le parent pauvre des consommations de vin. J'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moment pour consommer l'Alsace pour deux raisons. La Bourgogne devient quand même assez intouchable. On a des Riesling Grand Cru qui sont largement à la hauteur des grands blancs bourguignons, même si c'est un style différent. Et puis, aujourd'hui, on a considérablement allégé nos assiettes depuis 15-20 ans. On voit bien, alors les pokéballs, les salades, les ci, les ça, les sushis et compagnie, l'Alsace, elle fait carton plein là-dedans.
C'est parfait. Ouais. Et il ne faut pas oublier le rouge aussi, parce qu'il est de mieux en mieux, quand vous faites référence à nos amis bourguignons.
C'est oui, bah le rouge, le pinot noir, c'est le vin qui a le plus progressé, on va dire, ces 10 dernières années en termes qualitatifs. On a des pinots noirs aujourd'hui qui ne font pas rougir. Et d'ailleurs, ils sont demandés. Cela, on n'a pas de soucis.
C'est grâce au climat aussi qui a évolué ou pas ?
Oui, le climat forcément aide. D'ailleurs, faire des Riesling devient très très compliqué. En Alsace, ça va être le cépage compliqué. Après, on fait du vin depuis les Romains. Moi, quand j'ai une mauvaise journée,
vous appelez un Romain, vous dites salut.
Ça va le faire. On s'est toujours adapté. Ouais. Donc, l'homme
Hélène,
doit s'adapter.
Qui a bien connu les Romains, d'ailleurs, Hélène.
Alors, effectivement, j'ai bien connu les Romains. Qui sont à l'origine d'ailleurs effectivement du domaine, enfin des vignes en tout cas dans ce coin-là, là où sont aujourd'hui vos parcelles. Vos parcelles, c'est quand même un immense domaine parce que vous avez 130 hectares contigus à force de racheter les petites parcelles de grand-père là. vous êtes arrivé à 130 hectares, c'est le plus grand bloc viticole d'Alsace.
C'est le plus grand domaine privé d'Alsace et alors c'est un peu là que se trouve le challenge parce que pour nos auditeurs, 130 hectares c'est 850 km de vignes. Donc on va de Guebwiller jusqu'à la Bretagne. Nos équipes doivent parcourir ça entre 13 à 17 fois par an avec des coteaux qui sont assez extraordinaires. On est très très proche du Rhône, hein, sur le type de coteaux du Rhône Nord, ouais. Oui, que l'on cultive. Donc c'est des terrasses, on travaille encore avec les chevaux. Enfin, c'est pas banal comme vignoble. Alors ça vaut la visite, hein, je vous le suggère, si vous ne souffrez pas du vertige.
Alors justement, en parlant de visite, mon cher Philippe Fourbrac, l'Alsace, région pionnière en matière de no-tourisme.
La route des vins d'Alsace est quand même une référence absolue. Les villages ne s'y sont pas trompés, ils sont fleuris, accueillants. Les vignerons accueillent. Je ne sais pas si chez vous...
On a un nouveau espace dégustation depuis 2019. On offre trois types de visites, dont une pour les amoureux du vin, c'est la visite en 4x4 dans les vignes. On vous emmène pendant une heure dans les vignes, plus la cave, plus
c'est
la dégustation.
C'est pas complètement écolo, ça, je me trompe.
Est-ce que c'est un 4x4 électrique ou
non, malheureusement, non, c'est un vieux Land Rover. Oui, ça viendra peut-être. Mais
changement climatique, vigne, HVE3 et 4x4. Cherchez l'intrus dans la phrase.
Non. On ne parle pas du 4x4 à l'américaine.
Alors, c'est
on parle
un
4x4 pas du gros SUV.
À pédale.
On peut vous faire courir derrière si ça vous sentir mieux. Mais il peut faire chaud.
En tout cas, la région se prête bien à pouvoir venir en profiter.
Complètement.
Vous parlez de paysages. Ça monte quand même des paysages. C'est pas plat l'Alsace.
Et puis alors, l'Alsace offre un nombre d'activités. Alors, il y a un site qui s'appelle Bonjour Alsace que je vous recommande, qui vous liste toutes les activités que vous pouvez faire dans un week-end en fonction de l'endroit où vous vous situez.
Sympa.
Et c'est quand même à 3 heures de Paris en TGV. Et vraiment,
En toute saison, c'est agréable.
Absolument.
Non, mais c'est vrai, même l'hiver, c'est très sympa.
On va éviter janvier-février. Il peut faire jusqu'à moins 15. Il y en a qui ont du mal à supporter.
Oui,
on voit qu'on a moins froid.
Mais... On pédale un peu plus dans le Range Rover, Hélène, dites-nous.
Alors, effectivement, venir vous voir, c'est en effet une très très bonne idée. D'autant plus que on peut aussi admirer votre travail de maçon. Vous avez des kilomètres de murs.
Alors, on a encore à temps plein de ce qui s'appelle des muraillers, qui fabriquent des murs en pierre sèche. On a 50 kilomètres de murs en pierre sèche.
Précisément
pour tenir les terrasses, en fait. Voilà. Puisqu'en fait, l'ensemble de notre vignoble, c'est du sable. C'est comme planter de la vigne sur une dune au bord de la mer. Et ça a tendance à dévaler, surtout sur les grands crus.
Voilà. Et sur les pentes à 50 degrés, exactement. On peut comprendre que ça dévale vite.
Voilà. Donc, mon arrière-grand-père avait mis... Alors, il avait instauré ce système de murs absolument partout pour amener une mécanisation. En 1920, la mécanisation, c'était l'usage du cheval. Il a été le premier vigneron alsacien à utiliser les chevaux franc-comtois pour travailler les sols. Et puis aujourd'hui, ça c'est devenu plus fréquent. Et voilà, donc c'est vraiment... Et c'est quatre grands crus, surtout sur ce domaine. C'est ça la particularité. Guébillère est la seule commune à s'enorgueillir de quatre grands crus. Alors, quatre grands crus, c'est quoi? Je dis, pour nous, si vous voulez, vignerons, c'est comme quatre enfants nés dans la même famille, avec la même éducation, mais avec des personnalités différentes. Et notre job, ça va être de vous amener ces quatre terroirs dans votre verre, d'encenser ces personnalités pour vous les amener dans votre verre.
Il n'y a que des enfants sages ou parfois des turbulents?
Ah, alors ça, c'est pareil. Quand on parle du vieillissement du vin, on les a bien éduqués maintenant. Je ne peux garantir de rien, mais...
La gamme de prix, Séverine, ça va de combien? Parce que vous avez une gamme qualitative excellente et au niveau des prix aussi, c'est très abordable.
Je ne parle pas de rapport qualité-prix, puisque j'ai passé 40 ans, je parle de prix plaisir aujourd'hui. C'est la quantité de plaisir que m'offre la bouteille.
Alors sur l'entrée de gamme, plaisir,
sur l'entrée de gamme, on va être entre 12 et 15 euros.
D'accord.
On va être entre 20 et 30 sur les grands crus et on peut monter jusqu'à 40 sur les vendanges tardives, les vins les plus liquoreux et les plus rares du domaine.
Et le potentiel de garde sur des grands crus?
Je garantis les grands crus 15 ans. Normalement, dans 15 ans, je suis encore là. Hein, donc
Sinon, vous voyez les enfants là.
Ouais. Et à signaler que les vins ne sont pas en grande distribution et que c'est un choix. Vous avez décidé de ne pas y être.
Absolument, depuis toujours. Voilà. On a décidé parce que quand on fait bien son métier, on a envie de le partager et d'avoir une notion de conseil. Donc ça va être vendu dans la restauration, chez les cavistes, chez Nicolas notamment.
Absolument.
Vous trouvez les grands crus.
Et pour terminer, votre resting, maintenant qu'on comprend tout sur votre resting, il faut servir à quelle température? Pas trop frais quand même, Séverine. Hein.
Non, en général, moi je le mets au réfrigérateur. J'aime bien souvent les carafer avant de les servir à table. Oui. On oublie souvent de carafer.
Même les jeunes.
Blancs. Surtout les jeunes d'ailleurs. Et puis c'est beaucoup plus sympa à table. Et puis ensuite, on les laisse à table et ils nous tiennent. Alors, c'est des vins qui tiennent compagnie. Donc, ils vont s'ouvrir au fur et à mesure du repas. Ils ne vous dévoilent pas tout du premier coup.
Bien, célibataire de France, n'hésitez pas. Le Riesling est une excellente compagnie. Merci beaucoup, Séverine Stomberger. Merci également, Hélène Piau, Philippe Forbrack. On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Marseille avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres Macaron Fascination de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite.
Sud Radio Invino. Sud Radio Invino, midi 30, 13h, Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas au 159 rue de Rome à Marseille pour cette émission délocalisée. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur notre page Invino Instagram, Invino Sud Radio, pour parler de votre actualité, vos coups de cœur aussi. Et on retrouve Philippe Forbrack pour le Vino Quiz du dimanche, mon cher Philippe.
Et oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'œnotourisme et des spiritueux, qui se déroulera, notez bien la date, c'est du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et six verres, Macaron Fascination de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. Sur son domaine, Pierre Sibille produit des vins sous l'appellation Minervois. Dans quelle région viticole se situe cette appellation?
Voilà, c'est compliqué cette semaine.
Réponse A, le vignoble d'Alsace.
Très bien.
Réponse B, le vignoble de la Rioja.
Très bien.
Réponse B, le vignoble du Languedoc.
Excellent. Donc c'est A, B ou C, hein? Ouais.
Exactement. Pour répondre, et on l'espère, pour vous gagner deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. Et six verres Macaron Fascination de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
Et le gagnant, ça va tirer.
Tire au sort parmi les bonnes réponses.
Exactement, Philippe Forbrack, Invino sur Radio, a le grand plaisir de retrouver Laurence Perrault pour son concept Un vin, une émotion avec un nouvel invité, Jean-Philippe Janssen. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors l'actualité de Jean-Philippe, quelle est-elle?
Eh bien, c'est qu'il est tous les soirs en ce moment au Théâtre des Bouffes Parisiens, dans cette fameuse pièce Un couple magique, aux côtés de Valérie Mérès, que nous avions reçue il y a une semaine, et Stéphane Plaza. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Et pareil, vous aimez les vins?
J'adore ça, le vin. Le vin, c'est un symbole de convivialité, de chaleur pour moi. Ouais. Donc, je ne peux pas prévoir un repas sans vin, ce n'est pas possible.
Et alors, si je vous dis un vin, Quelle émotion vous revient en tête? Quelles sont les images qui reviennent, les odeurs, les saveurs?
Alors, j'ai deux émotions. Hein. La première, c'est ensemble, être ensemble. Le vin, ça symbolise pour moi être ensemble. Une autre émotion, c'est la rencontre. Parce que souvent, un de mes premiers amours, je l'ai rencontré autour d'une bonne bouteille de vin. Je peux te dire que c'était le Saint-Nicolas de Bourgueil. Et que depuis, j'ai une affection toute particulière pour ce vin, parce qu'il me rappelle forcément. C'est comme un parfum. Le vin vous rappelle une ambiance, une personne. Et le Saint-Nicolas de Bourgueil me rappelle cette personne. Donc, et comme on ne s'est pas séparé au mauvais terme, j'ai toujours un petit moment ému quand je bois une petite bouteille de Saint-Nicolas de Bourgueil, pas tout seul, bien sûr. Et après, quand j'ai vécu dans le Sud, j'ai vécu pas mal de temps à Montpellier. Et j'avais de très, très bons amis, mes meilleurs amis d'ailleurs, qu'ils sont toujours. Et on buvait souvent du Clos Marie. C'est un vin du Languedoc que j'adore. Et donc, chaque fois que j'ai ce vin, je repense à tous nos moments qu'on a eu dans le Sud, bon ou moins bon, parce que j'ai eu pas mal de galères quand j'étais dans le Sud. Et ces gens ont toujours été là. Donc, ça m'inspire la solidarité aussi, le vin. Voilà. C'est quelque chose qui se fait collectivement, le vin, d'ailleurs, même à la fabrication et même à la dégustation. Et d'autres vins que je connais bien le Pic Saint-Loup. J'adore le Pic Saint-Loup. J'adore le Clos de la Bergerie aussi. Non, j'aime bien. C'est surtout beaucoup, beaucoup de vins du Languedoc, parce que j'ai été influencé par le Languedoc en y vivant. Et sinon, après, j'aime le rosé.
Et au-delà des émotions, quand on parle de vin de façon générale, ça représente quoi pour vous ?
Oh bah ça représente forcément un moment festif, un moment convivial. C'est souvent au moment des repas. Et puis, c'est la fête pour moi, le vin. C'est forcément joyeux, le vin.
Pour un homme du Nord, il passe au-dessus de la bière ou c'est pareil ?
Bah alors, figure-toi que je suis de Schneur, mais que dès que j'étais gamin à l'école, j'ai fait une overdose de la bière. C'est-à-dire qu'on en buvait beaucoup, beaucoup, et j'étais malade comme un chien. Et depuis, je ne sais plus boire de bière. Je ne sais plus. Ça me donne un haut-le-cœur, la bière. Et alors que je suis de Schneur, je ne devrais pas dire ça. Mais il y a un truc avec ça qui fait qu'on m'a trop gavé quand j'étais gamin. Alors, du coup, je suis passé au vin parce que le vin est un peu plus raffiné que la bière, je trouve.
Jean-Phil, en tout cas, ce qui est magique, c'est comme toi, l'amour du vin que tu as, mais la pièce que tu joues en ce moment.
Ah bah, le couple magique avec Stéphane Plaza et Valérie Mérès, et on s'amuse, j'espère que les gens, et visiblement oui, prennent autant de plaisir à nous voir jouer que nous jouer, parce que vraiment on joue, le mot jouer s'adapte bien, parce qu'on s'y amuse, il y a beaucoup de plaisir, la pièce est très marrante, et du coup en plus c'est comme de l'orfèvrerie, ça, c'est ciselé tous les soirs, on rajoute des trucs, on retire, ça se modifie, c'est Laurent Ruquier est très content, l'auteur, et Jean-Luc Moreau avec sa baguette magique a mis ça en scène magnifiquement, ouais.
Merci beaucoup.
Bah merci à vous, mais vive le vin.
Merci beaucoup Laurence Perrault, merci également vous Jean-Philippe Janssen, Philippe Porbrac. Nous restons dans une belle région où il y a plein de people, hein, un peu comme Jean-Philippe, en direction le Luberon, comme on dit. On dit Luberon ou Luberon ?
Non, on dit Luberon.
Il n'y a pas
d'accent sur le « et ».
Et oui.
Et oui. Et voilà. Donc on dit Luberon quand on prononce d'une façon locale, même s'il y a beaucoup de gens qui disent « moi je m'envie dans le Luberon ».
Il a le droit d'y aller aussi. Hein.
Voilà, ils ont le droit d'y aller. Et après, ils ont le droit aussi de se faire remontrer sur place, comme on dit, en disant que ça ne se prononce pas comme ça. Alors, le Luberon, c'est un massif montagneux qui est situé dans la partie sud du Mont Ventoux et qui fait une frontière naturelle, pour le coup, entre la Provence et la vallée du Rhône. C'est vraiment le vignoble de jointure. Il fait partie de l'ensemble des vins d'appellation sous la bannière vin de la vallée du Rhône, donc sous Inter-Rhône. Mais franchement, ils sont d'une influence différente puisque ce n'est pas le Rhône. Qui coule. Il y a toujours un fleuve, hein, à côté de tous les vignobles.
Et oui. C'est ce que disent tous les Lyonnais, notamment.
C'est la Durance.
Et oui.
Et oui, qui vient des Alpes, puisqu'elle part.
Hélène Piau, vous baignez souvent dans la Durance. Hein. Je vous ai aperçu là, le 15 août dernier. Là,
mais
non,
absolument, toute nue.
Absolument. Nous avons passé maintenant
les Gorges du Verdon, c'était la Durance.
Les Gorges du Verdon, c'était la veille.
Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, la fameuse Durance qui part au-dessus de Briançon, là, dans le massif de Montgenèvre, et qui descend effectivement se jeter dans le Rhône au sud d'Avignon et qui baigne donc ce massif du Luberon de ses eaux clair, et c'est toujours nécessaire qu'il y ait un cours d'eau au milieu de la vigne pour plein de raisons. D'abord parce que ça a permis à l'époque de pouvoir y accéder, et puis éventuellement même de pouvoir y transporter un certain nombre de choses, et notamment de barriques. Et puis on dit qu'effectivement ça crée un microclimat, et c'est vrai, par reflet, ça gère la température différemment, il y a plein de raisons. Donc au milieu d'un vignoble, il y a toujours effectivement de l'eau. Et c'est ici le cas.
Quel pourcentage d'ailleurs d'eau dans le vin, Philippe ?
80, ça dépend du degré d'alcool.
Et ben voilà.
Parce que la plupart des vins aujourd'hui sont plutôt autour, on va dire une moyenne de 13 degrés d'alcool, 13,5. Ça veut dire que quasiment tout le reste, c'est de l'eau. C'est rassurant. Hein.
Oui, c'est que l'amateur de vin est aussi amateur d'eau.
Mais oui, parce que c'est une solution hydroalcoolique complexe, mais c'est hydro d'abord, parce que bien entendu, l'importance de l'eau est prépondérante. Et c'est une eau pure, c'est une eau végétale, issue du raisin. Donc,
c'est très sain.
Effectivement, absolument. C'est pour ça que.
Et dans le Lubeu,
le Pasteur
il y a
disait que c'était la plus belle et la plus saine et la plus génique des boissons, notamment.
Est-ce qu'il y a les trois couleurs dans cette belle région ?
Il y a les trois couleurs, exactement. Alors, on y produit, comme toujours dans le sud, beaucoup de rosé. Hein. Mais c'est finalement, dans le Luberon, un pourcentage moindre que ce qu'on a en Provence, puisqu'en Provence, c'est quasiment 90% de rosé. Dans le Luberon, on est à peu près 50%.
D'accord.
Le rouge n'est pas négligeable. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le blanc est sûrement la couleur, en tout cas les vins blancs, c'est la couleur la plus pertinente parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est un vignoble effectivement du sud, mais ce n'est pas un vignoble chaud. Mmh. C'est un vignoble sur lequel les vignes poussent entre 300, 400, même frise avec 500 mètres d'altitude, entre ces fameux deux massifs du Luberon. Et donc les nuits sont fraîches en été, ça préserve l'acidité naturelle et ça donne des vins qui ont une acidité et beaucoup de fraîcheur pour le coup. Donc ça va très bien pour les blancs.
Quelques vignerons peut-être, Philippe, qu'on peut conseiller si on passe dans la région, parce qu'elle est belle cette
exactement,
région aussi. Hein.
Cette région faite. Alors, il y a le domaine de la Cavale, la Verrerie, la Citadelle, Régus, Canorgue, le domaine des Pères, ou encore le château de Sannes, qui font partie effectivement des références de cette belle.
Et les prix moyens, ils sont people aussi ou pas ?
Alors, ils ont toujours une astuce d'entrée de gamme raisonnable. Oui. Et puis après, ils montent parfois avec des cuvées, ce qui est normal. Hein.
Spécial,
mais on a des vins, pour faire simple, à moins de 10 euros. Et on a des cuvées qui peuvent atteindre jusqu'à une trentaine d'euros. Ça peut être justifié selon les domaines et notamment dans les rouges. C'est là où ils font en général des élevages plus longs et des cuvées un peu plus.
Oui, ça coûte un peu plus cher aussi, beaucoup plus cher. Quoi.
Mais franchement, goûtez les blancs. Ouais. Ils sont souvent élaborés à partir de grenache blanc. La clairette donne de très jolis résultats. Le vin Merlot, le Bourbolinque, etc. Ou encore l'uni blanc. Je pense qu'ils ne devraient pas forcer trop sur le Viognier qui donne des vins qui sont parfois un peu lourds.
Merci beaucoup Philippe. Hélène Piau, vous nous parlez d'une bande dessinée, une BD que vous avez particulièrement aimée concernant la biodynamie.
Absolument, ça s'appelle Biodynamie, le vin en quête de terroir.
Chez Glénat, aux éditions Glénat. Bel éditeur.
Absolument. Dans la collection Vinifera, la grande histoire de la vigne et du vin. Donc, il y a déjà beaucoup de tomes qui sont parus dans cette collection. L'idée à chaque fois, c'est de prendre une époque ou un concept viticole et puis de l'explorer via la bande dessinée. Et à chaque fois, j'aime beaucoup parce que la bande dessinée est toujours sympa et puis on apprend un tas de choses.
Et oui.
Alors, dans cet opus-là, ils ne sont pas tous dessinés, scénarisés par les mêmes, mais cet opus-là est scénarisé par Corbeyran et Fabien Rodin. Les dessins sont de Federico Pietrobon. C'est très récent, hein, il est sorti au mois de mars. Et alors, on retrouve un couple qu'on avait déjà vu dans Bio, le vin de la Discorde. Louise et Émilien, deux vignerons qui sont du côté de Montpellier, un jeune couple qui a eu un bébé depuis le dernier livre. Et ils font des bébés quand
même. Quel est le prénom de l'enfant ?
Jules.
Ah bah très bien, alors une grosse bise à Jules.
Je savais que ça allait vous intéresser. Et donc, Louise et Émilien se sont lancés cette fois-ci dans la biodynamie. Et bien leur en prend parce que leurs vins sont super, mais mal leur en prend parce que comme ils sont super, ils suscitent des jalousies.
Ah.
Et on leur met beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues. Donc pourquoi est-ce que la biodynamie suscite autant de levées de boucliers ? Le vin aborde toutes ces thématiques-là en essayant de ne pas prendre parti. Alors, ça prend un peu parti quand même, parce que forcément, c'est un peu les gentils biodynamistes contre les méchants conventionnels. Mais il y a quand même plein de choses expliquées au passage. Pour une raison simple, c'est que le conseiller éditorial, c'est Jérôme Baudouin, le rédacteur en chef de la RVF, qui s'y connaît donc un petit peu en vin, et qui éclaire la BD en amont et en aval, avec une préface et une postface hyper riche sur la vie de Rudolf Steiner.
Grand copain de David Kobold.
L'homme qui a, on va dire, mis en mots le principe de la biodynamie. Biodynamie qui, on le rappelle, ne concerne pas juste des petits domaines qui se lancent en Languedoc. Hein. Enfin, La Tour, Palmer, Pontécanet,
oui,
Climens,
grand.
Voilà,
il y a également des
cités que Bordeaux, Roderer, Massamiel, enfin voilà, il y a plein de gens qui s'y sont mis depuis très 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 longtemps. Ça fait 56 pages, ça se lit très vite, mais vraiment on apprend des choses. Ça coûte 14,95 €,
oui, c'est bien.
Et c'est aux éditions Glénat, Biodynamie, le vin en quête de terroir.
Merci beaucoup Mélène Pio, merci également à vous Jean-Philippe Janssen, Séverine Soulberger également, Laurence Perrault, Philippe Forbrac, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera 13h30 précise pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas le caviste, qui a été fondé en 1822 et qui fête donc cette année son bicentenaire. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.